Bretagne 5. Écoutez la Bretagne. Bretagne 5 matin. Stéphane Hamon.
L'info en Bretagne ce matin. Depuis quelques jours, il semble que la Russie soit dans une dynamique positive face à l'Ukraine, selon les propos même de Vladimir Poutine. L'Ukraine qui subit des attaques russes de plus en plus meurtrières, à l'image de cet immeuble bombardé à Dnipro, attaques qui ont ému la communauté internationale, une situation qui précipite les livraisons d'armes à l'Ukraine, à l'image du Royaume-Uni qui va envoyer des chars lourds à l'Ukraine. Premier pays d'Europe à avoir pris cette décision. Nous en parlons ce matin de cette situation en Ukraine avec Sergueï Girnov, ancien espion du KGB, expert en relations internationales et en renseignement. Il est avec nous en direct par téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Sergueï Girnov, on a l'impression, en tout cas Vladimir Poutine le laisse entendre, que la Russie reprend la main dans ce conflit avec l'Ukraine. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que ce ne sont simplement que les propos de Vladimir Poutine ?
Effectivement, vous avez raison de poser cette question, parce que Vladimir Poutine passe son temps à mentir, donc il faut se méfier beaucoup de ce qu'il dit. Mais malheureusement, cette fois-ci, ce n'est pas très loin de la vérité, et c'est pas parce que c'est lui qui le dit, mais c'est parce que depuis 4 mois, il a commencé à reprendre quelque chose de plus intelligent et de construire en fait la machine de guerre de toute la Russie. Alors, en réalité, il a mobilisé quasiment toutes les ressources de Russie, les ressources économiques, les ressources militaires, les ressources humaines, et ça semble porter ses fruits. Et donc, du coup, bien évidemment, le dernier changement, bien évidemment, c'est le changement de la direction à la tête des militaires qui dirigent cette opération spéciale qui ne l'est plus. En fait, moi, j'ai eu déjà l'occasion de dire, l'opération spéciale militaire russe en Ukraine est terminée. Maintenant, la Russie est en guerre totale contre l'Ukraine avec toute la puissance du pays. Et bien évidemment, lorsque vous changez cette structure et vous organisez cette agression de la sorte, ça peut donner des fruits et c'est ce qu'on est en train de voir ce qui se passe en Ukraine.
Alors, on voit Soledar et Barmout, ces villes qui sont quasiment rayées de la carte et où on y trouve les milices Wagner qui semblent, elles, de leur côté, entrer en conflit avec l'armée régulière russe.
En revanche, c'est une vieille histoire. Hein. C'est pas maintenant qu'ils sont entrés en conflit avec l'armée. Ils étaient toujours en conflit avec l'armée. D'ailleurs, c'est Poutine lui-même, en fait, et c'est les Russes qui ont organisé ça. Parce que lorsque vous mettez des unités complètement différentes, donc imaginez, vous avez l'armée régulière, vous avez les volontaires, vous avez les contractuels, vous avez la milice Wagner, vous avez la milice qui a été créée par le ministre de la Défense, vous avez la milice qui a été créée par l'Église orthodoxe. Vous avez la milice de Kadyrov. Et donc tout ça, lorsque vous entendez les services spéciaux de Poutine, bien évidemment, ils ont chaque élément a sa propre politique. Et lorsque vous les mettez sur le même front, en gros, excusez-moi pour le mot, mais ça crée un bordel. Et donc, en fait, ça, c'est quelque chose qu'on observait. Et d'ailleurs, c'est ça qui jouait en faveur des Ukrainiens et c'est ça qui empêchait les Russes, en fait, à s'organiser bien dans cette guerre. Maintenant, disons que Poutine essaie de mettre un peu plus d'ordre parce que c'est pour vous dire que Prigojine et ses soldats, par exemple, il y a un mois, ont insulté avec des mots que je pourrais même pas vous traduire en français, les mots vraiment des injures, hein, mais des injures, les pires injures face au général Gerasimov et au ministre de la Défense Shoigu, et donc ça, normalement, dans aucun état, ce n'était pas supportable. Et Poutine a sifflé la récré. Et bien évidemment, c'était aussi quelque chose qui n'était pas intelligent de la part de Prigojine, parce que en même temps, il dépend, ses unités, sa milice dépend de l'armée pour le soutien en armes lourdes, etc. Et donc, bien évidemment, ce conflit lui est retombé sur la figure.
Wagner, ça incarne quand même pour nous, les Occidentaux, la terreur. On voit ces vidéos qui circulent, qui sont insoutenables hein, sur Internet. Il y a également ce milicien assez proche, dit-on, de Prigojine qui s'est sauvé, qui est passé en Norvège pour se sauver des griffes de Wagner, qui a été pris en charge par les services secrets. Est-ce que ça peut être quelque chose qui préfigure une faille dans le système russe ?
Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, que Poutine a créé Wagner. En fait, c'est pas lui qui a créé Wagner, parce que Wagner, c'était une milice privée qui s'est créée en 2014. Mais disons, l'État russe a récupéré cette milice Wagner. Et au début, c'était, si vous voulez, l'élite du renseignement militaire et de Spetsnaz du ministère de la Défense, et qui était utilisée à l'étranger. Mais pourquoi ça a été une milice Wagner? Parce que comme ça, l'État russe et Poutine en personne pouvaient dire ça ne nous concerne pas, c'est juste une entreprise privée, et ce qu'ils font à l'étranger ne concerne pas l'État russe. Et donc, en fait, c'était la possibilité de nier l'implication de l'État russe dans ce que Wagner faisait en Afrique, en Syrie et dans d'autres régions dans le monde. Et puis Poutine a décidé de l'utiliser pendant la guerre en Ukraine, tout simplement parce qu'en fait, lorsque il emploie cette milice, bien évidemment, elle ne rentre pas dans les statistiques des pertes pendant la guerre. Mmh. Et donc, en fait, ça permettait à Poutine de diminuer en quelque sorte les pertes qui étaient quand même assez importantes. Et donc, on a entendu le ministre de la Défense, Shoigu, jusqu'au mois de septembre, dire que côté russe, il y a eu juste 5000 morts au front, ce qui était absolument, c'est un mensonge absolument abominable, parce qu'en réalité, les Russes ont bien largement dépassé déjà les 100 000 morts. Mais cette milice, ça rendait finalement au début service à l'armée, mais ça a changé aussi, il y a le caractère de cette milice qui a changé, parce que comme je vous ai parlé de l'élite des forces Spetsnaz au début, et puis comme ils ont perdu beaucoup de personnes, et donc en fait, ils n'arrivaient plus à recruter des bons éléments, et Prigogine a obtenu l'autorisation du ministère de la Justice de recruter dans les prisons. Et là, les gens qu'ils ont recrutés dans les prisons, c'est vraiment n'importe quoi, hein. C'est vraiment de la pègre, des gens qui ne savent pas forcément mener une guerre, mais en même temps, qui sont cruels, qui sont c'est des criminels, et y compris les criminels qui ont été jugés et mis en prison pour les pires crimes. Et donc, bien évidemment, lorsque vous retrouvez ces personnes-là sur le front, avec la possibilité, avec le droit que l'État leur donne de tuer, bien évidemment, ça donne aussi des exactions et toutes sortes de choses qui déjà la guerre c'est pas jovial, mais quand vous retrouvez la racaille qui sort des prisons et qui se retrouve sur le front, bien évidemment, ça empire encore la situation.
Côté diplomatique, on a le président russe Vladimir Poutine qui a parlé au téléphone avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan en ayant des mots très durs vis-à-vis de l'Occident, en disant voilà, aujourd'hui l'Europe c'est un peu le parrain de cette guerre en fournissant des armes lourdes désormais à l'Ukraine. Est-ce qu'on peut imaginer une escalade qui cette fois-ci se tournerait plus vers l'Europe, plus vers l'OTAN, plus vers l'Occident, en règle générale, que vers l'Ukraine?
Malheureusement oui, et malheureusement d'ailleurs l'escalade vient des deux côtés, parce que bien évidemment l'Europe ne pouvait pas non plus regarder les Ukrainiens se faire massacrer y compris par la milice Wagner, et donc il y a eu la décision de fournir de plus en plus d'armes, et là l'Occident a dépassé aussi une sorte de ligne rouge qui a existé au début de la guerre, c'est-à-dire l'Occident a pris la décision de fournir aux Ukrainiens maintenant les blindés, voire même des chars, les chars lourds, donc c'est-à-dire l'armement offensif qui permettra aux Ukrainiens éventuellement de gagner cette guerre, de repousser les Russes vers les frontières de l'Ukraine avant 1991 ou 2014. Mmh. Et donc ça, c'est quelque chose qui est consommé, qui est réel. Et face à ça, Poutine, comme je vous ai dit, donc en fait, il a lancé maintenant la guerre globale. Mais pour Poutine, déjà, cette guerre était loin d'être la guerre contre l'Ukraine. Vous savez, dans la rhétorique de Poutine, dans le narratif russe, les Russes mènent la guerre contre l'Occident. Ils mènent presque une guerre sainte. Il y a l'Église, d'ailleurs, orthodoxe qui y participe. Et donc, cette escalade, elle était toujours côté russe dès le début. Et d'ailleurs, Poutine est allé très, très loin dans cette escalade, parce que dès le début de la guerre, il a mentionné aussi les armes nucléaires. Mmh. Et donc, si vous voulez, on vacille quasiment sur le seuil du conflit mondial nucléaire depuis le début de cette guerre. Donc là, je dirais que presque ça ne change pas radicalement depuis le début, Mais chaque jour, on avance un tout petit peu dans l'escalade, oui, malheureusement.
Il nous reste deux petites minutes, Sergueï Girnov. Qu'est-ce qui pourrait stopper, j'allais dire, on pourrait presque parler de la folie de Poutine, mais en tout cas de cette guerre lancée contre l'Ukraine et plus largement, vous le disiez à l'instant, contre l'Occident. Quel serait le facteur déclencheur pour arrêter cette guerre ?
C'est d'abord cette guerre, c'est une guerre d'une seule personne. Cette seule personne, ça s'appelle Vladimir Poutine. C'est sa propre guerre. C'est lui qui est le moteur de cette guerre. C'est lui qui a commis le suicide politique personnel et donc qui entraîne la Russie avec lui et le monde entier avec lui. Donc, bien évidemment, comme si je le présente comme ça, la situation, bien évidemment, la mort de cette personne ou la disparition de cette personne ou l'éviction de cette personne peut changer la donne. Et donc, s'il y a un coup d'État à l'intérieur de Kremlin, si Vladimir Poutine meurt tout simplement, soit assassiné, soit tout simplement s'il disparaît d'une manière naturelle, ça changera la donne et cette guerre peut s'arrêter. Sinon, il y a un changement qui peut intervenir si l'Ukraine, qui est soutenue par une coalition internationale qui se compose de 55 pays, gagne cette guerre. Et à ce moment-là, oui aussi, ça peut changer la donne.
Eh bien, c'est là-dessus que l'on va se quitter, Sergueï Girnov. Je rappelle que vous êtes ancien espion du KGB, expert en relations internationales et en renseignement. Et on vous entend très souvent sur les chaînes de télévision, les chaînes de radio et sur Bretagne 5 pour faire un point sur cette guerre qu'on avait promis courte et qui va bientôt arriver à un an de conflit. Donc, on vous réentendra, Sergueï Girnov. Merci infiniment d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Bretagne 5. Je vous souhaite une très belle journée.
Au revoir.
Bretagne 5 Matin, Stéphane Hamon. Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.